Chaque année, au début des grandes vacances, des milliers de chiens sont abandonnés par leurs propriétaires. Ces abandons sont souvent le fait de personnes qui ne comprennent pas le comportement de leur animal, qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes ou qui en ont peur. On va donc tout prendre depuis le début, depuis le choix d'un chiot et l'apprentissage de la propreté. On va parler de la relation des enfants avec le chien ou encore de l'adoption d'un animal abandonné. Votre invité, Jacques Pradel, va nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un chien de compagnie. Laurence Bruder-Sergent est comportementaliste et éducatrice de chiens de compagnie. Elle est l'auteur du livre « La cause des chiens » publié, c'est courageux, à compte d'auteur.
Eh oui, c'est courageux, c'est exotique, c'est inhabituel. Elle m'a envoyé son livre, j'ai regardé, j'ai feuilleté, j'ai trouvé que c'était un boulot formidable. Et donc, voilà pourquoi vous êtes là ce matin, Laurence Bruder-Sergent. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pradel.
Alors, si vous m'appelez monsieur, je vous appelle madame.
Hein, ah bon, parce que, bon.
Votre livre, évidemment, tente et réussit de répondre à beaucoup de questions que se posent les propriétaires de chiens. Alors tout ce que disait Julie il y a un instant est vrai. Il y a quelquefois des comportements alors qui vont encore plus loin. Je ne peux pas m'empêcher de les citer tout de suite avec un petit sourire. Si, je ne sais pas, un chien qui interdit à toute une famille l'accès au réfrigérateur, parce qu'il considère que c'est à lui.
C'est un classique.
C'est un classique. Un chien qui refuse de céder le lit de sa maîtresse au nouveau compagnon de celle-ci quand il arrive. Bah, il va dormir dans le salon, sinon le chien grogne et peut même devenir assez agressif. Sont vraiment des comportements, parce que moi je trouve ça exceptionnel et excessif. Mon chien ne ressemble pas à ça.
Mais tant pis pour vous, vous l'avez bien éduqué.
C'est vraiment des situations qu'on retrouve assez régulièrement.
Oui, oui. Ouais. Vous savez, un comportementaliste, c'est un spécialiste des relations entre les humains et les chiens.
Ouais.
Donc quotidiennement, nous rencontrons des problèmes qui sont vraiment, qui peuvent paraître invraisemblables à des gens qui n'y sont pas habitués.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce que vous venez de citer, c'est banal. De même, les relations parfois chaotiques entre les humains, entre les enfants, pardon, et les chiens. Mais il faut dire qu'on leur soumet pas mal de contraintes à nos chiens et ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent.
Ouais. Alors, évidemment, avec vous, on va faire le tour, finalement, d'un certain nombre de situations et voir comment les comportementalistes répondent à cela. Parce qu'il y a un certain nombre de métiers. Hein, dans le domaine canin, par exemple, bon, il y a les éducateurs ou les dresseurs. Certains disent dresseurs, d'autres préfèrent éducateurs. Mais vous, vous dites dans votre livre, de toute façon, le résultat est le même.
Oui, on impose au chien quelque chose qu'on a décidé pour lui.
Assis, couché, mais c'est très important quand même de pouvoir maîtriser son chien avec quelques ordres simples.
Et c'est indispensable. Donc, comme vous le disiez, il y a différents métiers. C'est une question de sémantique, après. Entre éducation, dressage, il s'agit en fait de conditionnement, c'est-à-dire amener le chien à produire une réponse suite à un stimulus. Donc, on va le dresser, on va le conditionner ou on va l'éduquer. Ça plaît plus aux oreilles de dire qu'il est éduqué que dressé.
Ouais.
Mais quand on lui demande de s'asseoir sur commande, c'est quand même du dressage. Lui, il n'a pas compris ce qu'on lui a demandé. Il se soumet à un conditionnement.
Voilà, c'est un peu la carotte et le bâton d'ailleurs, en général.
Plutôt la carotte.
C'est la carotte
et le bâton.
C'est la récompense et puis on se la voit. Bon. Mais en même temps, on est responsable de notre animal de
compagnie.
Hein,
donc, donc comme vous disiez, c'est notre responsabilité de l'éduquer et de faire en sorte qu'il ne soit pas une nuisance pour les autres.
Ouais. Alors, vous intervenez vraiment sur le terrain en tant que comportement. Mais vous êtes les deux, alors vous êtes éducatrice et comportementaliste.
J'ai choisi d'avoir la double casquette.
Ouais.
C'est-à-dire que lorsqu'une personne m'appelle pour me dire « Bon, écoutez, je ne peux plus promener mon chien, il tire en laisse comme un fou, il ne revient pas quand je l'appelle », ok, on va l'éduquer. Par contre, quand une personne me dit, je reprends l'exemple que vous avez cité, voilà, j'ai un compagnon qui arrive, mais je suis célibataire depuis 5 ans, j'ai un bon gros molosse de 50 kilos, un petit mâle, qui dort avec moi, ça tient chaud l'hiver, comment je fais pour intégrer mon mari ou mon futur mari? Donc là, il ne s'agit pas de dresser le chien, c'est plutôt avec les humains que je vais discuter, c'est-à-dire leur expliquer comment le chien voit son environnement, qu'est-ce qu'il comprend de la situation et comment lui faire accepter ce compagnon. Donc il ne s'agit pas de faire du spiritisme ou de dire au chien « Écoute mon coco, là il y a un nouveau copain qui arrive, il faut que tu le tolères ». Pas du tout, c'est avec les humains que j'explique comment faire.
Ouais. Et il faut dire que j'ai découvert en lisant votre livre que quand un maître ou une maîtresse promène son chien, ce n'est pas la même balade pour l'un et l'autre.
Exactement. Exactement.
Expliquez ça, parce que ça, c'est, vous faites bien comprendre par cet exemple-là ce qui se passe au cours d'une balade, qu'effectivement nous sommes deux espèces différentes et que le chien ne comprend pas ce qu'on lui dit, quoi.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, par ce livre, j'ai essayé d'expliquer quelle est la réalité de nos chiens. Parce que nous avons tendance à penser que c'est un humain à qui il ne manque que la parole. parole. Or, il lui manque bien plus que la parole. Il a un langage, il sait communiquer. Par contre, nous n'avons pas forcément appris à comprendre ce langage. Mais il a sa façon de voir la vie, de voir son environnement. Et puis surtout, il faut bien garder en mémoire qu'un comportement, c'est une réponse. C'est-à-dire que le chien répond aux contraintes de son environnement. Et quelles sont les contraintes? C'est nous qui les imposons. Donc c'est chez l'humain qu'il faut commencer par expliquer ce qui se passe.
Ouais. Alors, en fait, vous dites que le comportement d'un chien, par exemple, dans une meute de chiens, n'est absolument pas le même que le comportement qu'il va devoir apprendre, finalement, avec des humains.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors là, on revient un peu à cette histoire de hiérarchie. Ouais. Ça fait des siècles et des siècles où on parle de dominant et dominé. Ouais. Ah, vous savez, c'est mon dada, ça. Hein.
Ah bon, c'est vrai?
Ah oui, oui.
Mais j'adore l'expression mâle alpha.
Mais alors, le mâle alpha...
C'est ce qu'on dit dans les meutes de loups. Hein. C'est,
oui,
c'est...
voilà, mais des individus à l'état sauvage.
C'est qui le mâle alpha dans une meute de loups?
C'est qui le mâle alpha dans une meute de loups?
C'est qui?
C'est celui qui assure un peu la cohésion du groupe, qui a l'autorité, qui a certains privilèges.
Qui mange avant les autres, par exemple.
Voilà, en général, on parle de quatre points principaux. C'est la reproduction. Il est le seul à se reproduire. Ouais. Les autres ne se reproduisent que s'ils ne marquent pas son désaccord. La nourriture, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que la proie a été mise à mort, il consomme les meilleurs morceaux, il mange tranquillement.
Les autres mangeront s'il en reste.
Exactement, s'il leur a laissé quelque chose. Ensuite, il y a la gestion du territoire, c'est-à-dire que c'est lui qui dispose de tout le territoire. Il va se placer où il veut. Il va se déplacer comme il veut. Les autres, par contre, ne se déplacent que s'il est d'accord.
D'accord.
Ou plutôt, là encore, s'il ne marque pas son désaccord.
Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne dans la nature sauvage, on va dire.
Voilà.
Et alors, c'est vrai qu'il y a une idée reçue. On se dit, mais le chien n'est jamais qu'un loup très ancien, enfin il descend du loup, et donc finalement il faut lui appliquer les mêmes règles, quoi. Donc c'est au maître d'être le mâle alpha.
Eh bien c'est ce qu'on dit depuis effectivement des décennies. Maintenant on revient un petit peu sur ça, sur cette idée-là. Alors il y a le quatrième point au niveau des individus sauvages que je n'ai pas évoqué, mais en fait c'est le point principal, ce sont les interactions sociales, c'est-à-dire les contacts affectifs, les moments de jeu, de caresses, les papouilles. Donc ça pour le chien de compagnie c'est très très important, beaucoup plus que la nourriture. La reproduction, alors là, on n'en parle même plus, parce que notre chien de compagnie n'a rien à dire. C'est nous, les humains, qui décidons de tout. Par contre, le chien, ce qu'il a gardé de son ancêtre, le loup, c'est qu'il a absolument besoin d'un cadre. Vous savez, chez les enfants, comme chez les chiens, l'absence de cadre est anxiogène. Donc, quand on est un peu babacool et on se dit, mais on peut vivre en s'aimant et tout ira bien, ok, c'est une bonne chose, mais un chien a besoin d'un minimum de cadre. Et l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme.
Voilà. C'est pas en hurlant qu'on s'impose.
Pas du tout.
C'est pas en frappant avec la violence, parce que ça existe aussi. Hein.
Oui, mais ça existe parce qu'effectivement, justement en venant, j'ai emmené un livre qui a été publié en 1970, où l'auteur disait « Frappez-le et comme ça il comprendra qui est le maître ». Aujourd'hui, c'est des choses dont on est vraiment revenu. On a bien compris que la violence engendre la violence et qu'au contraire, c'est pas comme ça qu'on est le leader.
Ou les gens qui mettent la tête du chien sur l'urine si le chien a uriné dans la maison, par exemple, c'est des comportements qu'on connaît, c'est des comportements humains qu'on connaît.
C'est des croyances.
Ça sert à rien en fait, ce que vous dites dans votre livre, ça ne sert à rien.
Pas du tout. Le chien ne comprend pas pourquoi on le plaque dans une odeur d'urine. Il ne sait pas. Ça, c'est des croyances qui circulent, de même que on ne tape pas un chien avec la main, mais seulement avec le journal, parce que la main c'est fait pour caresser. Il faut vraiment
Qu'il y ait de confusion dans la tête du chien. S'il a reçu une claque un jour, il ne faut pas s'étonner de se faire mordre la fois d'après.
Mais disons que là, quand on dit ça, on suppose que le chien n'a pas de système nerveux, qu'il ne fait pas la différence entre une caresse et un coup. Et c'est vraiment mésestimer son intelligence. Donc, bon, déjà, on ne frappe pas un chien. Moi, je dirais que il y a un seul cas dans lequel on a le droit d'être violent avec son chien, c'est s'il a été violent avec vous. S'il vous a mordu, alors là, ok, je veux bien qu'on soit violent, mais dans l'instant. Pas 3 secondes plus tard, pas 1 minute, pas 10 minutes, pas 1 jour, tout de suite. Parce qu'un chien est dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur.
Mais si je vous ai bien compris, dans votre livre, donc le livre s'appelle La cause des chiens. Alors, mais il faut pas non plus, vous ne faites pas d'anthropomorphisme, vous ne menez pas une croisade au nom des chiens qui n'ont pas la parole et vous la prendriez à leur place. C'est pour essayer vraiment de comprendre comment ça se passe dans la tête d'un chien. Parce que vous dites, en général, quand un chien meurt, Alors il a une bonne raison, même si on le regrette, oui. Mais il faut peut-être s'interroger à ce moment-là, pourquoi mon chien a mordu ou pourquoi il mord les autres.
Oui. C'est-à-dire que quand on veut interpréter un comportement, il faut toujours le relier au contexte dans lequel il est apparu.
Ouais.
Donc on ne peut pas dire ce chien a mordu, c'est qu'il est méchant. Ou il a mordu, il remordra, c'est sûr. Ou alors, il faut l'euthanasier. Enfin, pardon, oui, il faut l'euthanasier, c'est comme ça qu'on dit. Mais en fait, ça revient à dire le tuer. Mais bon, on enjolive ça dans des jolis mots. Mais parce que le chien a produit un comportement qui n'était pas désiré. Et ce n'est pas parce qu'un comportement est indésirable qu'il est anormal. Il faut vraiment faire la différence entre anormal et normal. C'est-à-dire qu'un chien peut mordre et avoir une bonne raison de mordre. Il faut qu'on cherche les raisons avant de dire il faut l'euthanasier parce qu'il est dangereux. Si je donne un exemple de ça, un enfant qui harcèle un chien, le chien va commencer par donner des signes de menace. C'est-à-dire il va grogner, il va montrer les dents, il va éventuellement s'immobiliser et lui jeter un regard bien fixe. Mais nous, les humains, nous ne connaissons pas ce comportement-là. On ne le décode pas. Voilà. Donc le chien, essayant de dire arrête, parce que si tu continues, je vais te mordre. Et la menace, elle est faite pour éviter la morsure. Le chien qui menace dit attention, ça va chauffer. Et si nous ne respectons pas cette menace, alors il n'a plus d'autre choix que de passer à la morsure. Donc effectivement, il va charger ou il va mordre. Et chaque morsure, bien sûr, est différente. Chaque morsure a une signification autre. Mais malheureusement, régulièrement, ça signifie la mort du chien.
J'ai envie de vous poser une question. Je souris en vous écoutant, j'y pense. Est-ce que c'est vrai ou pas que certains chiens sont très agressifs avec les gens qui portent des uniformes? Parce que c'est vrai que les postiers, il y en a peut-être qui nous écoutent ce matin, les policiers qui sont aussi en uniforme, je ne sais pas moi, les marins, enfin bon.
Oui, même les vétérinaires, avec la blouse blanche.
Le vétérinaire avec la blouse blanche. Alors, expliquez-moi ça. On a une explication?
Oui, on a des explications, des certitudes, on n'en a pas beaucoup, on a des hypothèses. L'hypothèse serait la différence, c'est-à-dire que les chiens sont habitués à un certain environnement, à certaines odeurs. Par exemple, vous savez, nous les Européens, nous ne sécrétons pas les mêmes hormones et les mêmes odeurs qu'un Africain qui n'a pas la même alimentation que nous, ou qu'un Asiatique. Donc nos chiens sont habitués à un monde sensoriel et à un monde visuel qui est spécifique. Et quand ce monde change un peu, ça les perturbe, ça les inquiète, ça leur fait peur. Donc certains chiens, quand ils voient effectivement des personnes en uniforme ou des personnes qui portent un chapeau, ou alors des personnes de couleur de peau, les Africains par exemple, ou les Asiatiques qui n'ont pas la même odeur corporelle que nous, un chien qui n'a pas l'habitude, il peut être inquiet parce qu'il ne reconnaît pas.
Vraisemblablement, à ce moment-là, le blanc, puisqu'on parle des couleurs, le blanc en Afrique face à un chien qui a l'habitude d'un village africain va être agressé éventuellement par un chien pour les mêmes raisons. Donc,
exactement, c'est possible qu'il ait peur, ce chien-là, et que vous savez, le comportement violent, la base de la majorité des comportements violents, c'est quand même
la peur. Bien sûr.
Donc, et elle est malheureusement mésestimée. C'est aussi ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas croire que les chiens sont méchants, qu'ils nous en veulent et qu'ils sont volontairement
agressifs. Oui, il ne faut pas d'anthropomorphisme. Quoi. Voilà,
exactement.
Mais vous dites qu'il faut comprendre, et de la compréhension naît le respect, du respect naît l'amitié. C'est clair.
Oui, c'est une formule qui est magnifique.
Ah oui. Alors, évidemment, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, ils ont commencé déjà à nous appeler pour nous parler de leur chien. On ne va pas résoudre des situations en direct comme ça, mais peut-être pouvoir quand même donner quelques pistes, si vous êtes d'accord. Parce que là, on a des questions sur la notion du temps des animaux, enfin, et notamment des chiens. Ça, c'est Nicole qui nous a appelé de Vannes, dans le Morbihan. Et elle dit, on dit toujours que les chiens n'ont pas la notion du temps. Elle dit, mais pour moi je pense que c'est faux. J'ai deux chiens et je fais bien attention à ce que mes absences ne durent pas trop longtemps, car je pense qu'ils s'ennuient. Alors, on peut parler de ce sujet, puisque vous l'abordez longuement dans votre livre, ce qui se passe quand un maître va bosser, quoi. Et puis le chien peut rester, le chien de compagnie, il a besoin de compagnie.
Il a besoin d'occupation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le chien, à l'état sauvage, passe 90% de son temps d'éveil à chercher de la nourriture, c'est-à-dire qu'il est occupé.
Il est occupé,
Et notre chien, à nous, il est devenu croquetivore.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on lui donne à manger une fois ou deux par jour, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'ennuie.
Ouais. Donc, quand il s'ennuie, il va essayer de chercher à s'occuper.
Ouais.
Si c'est un chien qui est très, très attaché à son maître de manière hyper, c'est-à-dire dans l'excès,
ouais.
il va essayer de trouver des objets que son maître touche beaucoup, mm-hmm. qui ont son odeur,
ouais.
donc les chaussures, les télécommandes, donc tout ce que nous touchons avec nos glandes sudoripares, les pieds et les mains.
Ouais.
Donc, il va toucher ça, il va le mastiquer,
ouais.
ou alors il peut tout casser parce que bah, il passe le temps comme il faut,
mm-hmm.
comme il veut, pardon.
Ouais.
Donc, par rapport à cette histoire de notion du temps,
oui.
on n'a pas de certitude parce qu'il faudrait que les chiens nous le disent. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas la notion du temps comme nous, c'est-à-dire 24 heures dans une journée, mais plutôt jour, nuit.
Ouais.
Je pense effectivement qu'ils doivent avoir une certaine notion du temps qui ne doit pas être la nôtre.
Ouais.
Du style, bon, j'ai le temps de déchiqueter une poubelle ou une demi-chaussure,
ouais.
Quelque chose comme ça.
Je ne pose pas cette question-là, bien sûr.
Non, ils sont dans l'immédiateté.
Ouais.
Par contre, c'est vrai que, comme dit cette dame, si elle fait attention à laisser ses chiens toujours un temps identique,
ouais.
alors là, il y a conditionnement.
C'est-à-dire
que si c'est tout le temps la même absence, les chiens le savent.
D'accord.
Voilà.
Alors, c'est au 01 42 32 15 15 hein, pour les questions par téléphone. Europe1.fr si vous préférez nous envoyer un courriel. Et on va continuer sur ce thème abordé par Nicole. Donc, parce que, vous dites, on s'interroge quelquefois sur le comportement de chiens. Alors, même des gens parlent de sixième sens, de télépathie. Vous citez un auteur américain
Rupert
ou anglais,
Sheldrake.
Je ne sais plus, oui. Qui parle, lui, carrément de télépathie. Alors, c'est vrai qu'on s'étonne parce qu'on rentre à la maison. Quelquefois, on rentre 2 heures avant. Mais le chien est derrière la porte.
Oui.
Comment il a fait ?
Eh bien, parce que déjà, il a des sens beaucoup plus développés que nous.
Ouais.
Il a reconnu le moteur de la voiture qui se gare. Il a reconnu votre pas dans l'escalier.
Ouais.
Il a reconnu votre manière, bien à vous, d'ouvrir les portes, éventuellement d'arriver dans l'ascenseur, de sortir de l'ascenseur.
On peut entendre tout ça, parce qu'il a une ouïe très développée, un
oui.
odorat beaucoup plus développé que l'humain. Quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Donc, cette histoire de sixième sens, effectivement, il faut être très prudent.
Mm-hmm.
Les scientifiques... avec leur manière de bien répertorier
oui.
tous les protocoles, sont très prudents. Disons que... Comment dire ? Je cherche mes mots.
Oui. c'est-à-dire que, de toute façon, ça, j'imagine que les gens ne viennent pas vous voir pour vous dire ça. Ça, c'est de la curiosité. C'est pour ça que je vous en parle.
Je l'entends souvent, effectivement, cette histoire du sixième sens.
Ouais,
mais
ouais.
parce qu'ils perçoivent nos émotions aussi.
Mmh.
Quand on rentre du travail et qu'on est malheureux ou qu'on est triste ou qu'on est fatigué, ils le savent très bien. Alors, vous avez les petits chenapans qui sentent que vous êtes fatigué et qui vous font mille et une bêtises parce qu'ils sentent que vous n'avez pas l'énergie pour réagir.
Ouais.
Et puis, au contraire, vous avez les bons chiens... bien calmes, qui viennent se coucher à côté de vous et qui attendent que ça aille mieux.
Ouais.
Donc chaque chien est différent, c'est pour ça que c'est très difficile de donner des lois générales et de dire qu'ils sont tous comme ceci ou tous comme cela.
Voilà, et c'est donc d'autant plus impossible pour le thérapeute, on va dire, qu'il soit comportementaliste ou éthologue, quand les gens viennent le voir, il n'y a pas une formule magique qui s'appliquerait à tous les couples homme-chien ou femme-chien.
Non, en effet.
C'est impossible pour vous.
Il n'y a pas deux individus identiques.
Ouais.
Il n'y a pas deux teckels identiques. Il n'y a pas deux labradors identiques, il n'y a pas deux bergers allemands identiques.
Ouais.
Chaque individu est une identité.
Ouais. Comme les humains, quoi, finalement.
Exactement.
Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est le système de relation entre le maître et le chien. Et c'est à partir de l'étude de ce qui se passe, comment ils interagissent, est-ce qu'ils se comprennent, est-ce qu'ils ne se comprennent pas, que vous allez essayer de trouver des solutions, alors.
Tout à fait. En fait, on considère la famille, que ce soit une personne avec son chien ou une famille, un couple avec des enfants et un ou plusieurs chiens, on considère la famille comme un système, et un système composé de différents éléments.
Ouais.
Chaque élément a des répercussions sur les autres. C'est-à-dire que quand un élément dysfonctionne, cela rejaillit sur tout le système.
Ouais.
Un exemple, on a un couple avec 2 enfants et un chien. Monsieur perd son travail. Il est un petit peu triste, il est un peu déprimé, l'ambiance est plutôt maussade dans la famille.
Mm-hmm.
Le fiston va commencer à moins travailler ses mathématiques.
Ouais.
La jeune fille, elle va sortir un peu plus, et le chien, il va commencer à faire des bêtises. Donc là, on a tout un système où il y a des répercussions d'un individu sur tous les autres.
Ouais.
Donc mon travail à moi, c'est un peu comme une enquête.
Ouais.
C'est ça qui est passionnant dans ce métier. C'est que quand quelqu'un me pose une question ou vient me voir à mon bureau, je reçois tout le monde.
Ouais.
Et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans ce système pour que ce chien en vienne à produire ce comportement-là.
D'accord. Donc d'abord, voir du côté des humains, parce qu'ils peuvent vous raconter, quoi.
Tout à fait.
On peut bien
tout
comprendre.
À fait. Ouais. Alors c'est vrai que ça me permet de rebondir un peu là-dessus. Il y a des gens, une chose que les gens ne comprennent pas très bien quand on leur parle de comportementalistes, c'est que certains comportementalistes choisissent de recevoir les gens sans le chien, mm-hmm. et d'autres de recevoir les gens avec le chien.
Ouais.
Et les gens ne comprennent pas pourquoi, quelle est
ouais.
cette
vous
distance.
Vous faites quoi, vous ?
Moi, je laisse le choix aux gens.
Ah bon.
Je laisse le choix aux gens parce que je leur explique que je ne vais pas parler à leur chien. Ils vont pas me laisser leur chien y rentrer chez eux. Et je vais pas dire au chien, arrête tes bêtises, mon coco, maintenant.
Oui.
C'est avec eux que je vais
oui.
parler.
D'accord.
C'est eux qui me décrivent le comportement de leur chien. Ils
ouais.
connaissent son caractère et son tempérament beaucoup mieux que moi.
Ouais. Ouais.
Moi, je connais certaines lois générales, mais leur mmh. individu, c'est eux qui le connaissent.
Ouais.
Bon, par contre, évidemment, j'aime les chiens, donc j'apprécie toujours quand ils viennent avec leur chien. Ça
ouais.
me fait plaisir.
Ouais.
Mais je ne l'examine pas, le chien, parce mmh. que je ne suis pas vétérinaire. Ce n'est
ouais.
pas mon travail.
Ouais.
Et comme dit, je ne lui parle pas, je ne fais pas du spiritisme
d'accord,
ou de télépathie.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, certains comportementalistes ouais. décident, bon ben, je ne reçois pas le chien pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et puis d'autres disent, je veux absolument voir le chien. Ça dépend.
Est-ce que, Laurence Bruder-Sergent, on va reprendre une anecdote là, qu'on a donnée tout à l'heure, l'histoire du chien qui interdit l'accès au réfrigérateur à toute la famille.
Oui.
D'abord, c'est une histoire vraie, ça.
Oui,
hein,
bien sûr.
Je ne l'ai pas inventé. Bon. Prenons ça comme exemple pour voir... Parce que vous ne dites pas dans le livre ce que vous avez fait. Comment
oui.
ça s'est... C'était
Mais,
volontaire, je
oui,
suppose.
Oui, c'est volontaire parce que
Mais là,
sinon,
vous
les gens
bien
ne le feraient.
Hein
alors, donc
sinon
ce qui se passe, bah sinon les gens veulent
ah oui,
prendre
un
la
modèle,
solution.
Ça.
Voilà.
Oui,
ils pensent que oh, bah, je n'ai qu'à faire comme ça et tout ira
bon.
Bien.
Alors, dans ce cas-là, avec cette famille-là, ce chien-là et ce réfrigérateur-là,
oui.
comment vous avez résolu
alors, donc,
le problème?
La situation, c'était donc un jeune mâle, enfin jeune, un adulte de 3 ans
oui.
Qui n'était pas castré, qui faisait beaucoup d'obéissance. Donc, bien sûr, au départ, on avait l'idée, mais pourtant, sur le terrain, il m'obéit parfaitement. Pourquoi à la maison, il ne m'obéit pas? Donc, il a fallu expliquer aux gens que ce n'est pas parce que le chien leur obéit, qu'il les respecte.
Mmh.
Et donc ce chien, effectivement, il était très belliqueux quand il s'agissait de nourriture. Que ce soit effectivement l'accès au réfrigérateur, la poubelle, si le couvercle n'était pas fermé, le chien se positionnait devant et interdisait à tout le monde d'y accéder. Si par malheur... La table n'était pas débarrassée suffisamment vite après les repas. De même, il menaçait en grognant quiconque s'approchait.
Ah ouais.
Donc là, il fallait faire très attention. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants dans cette famille-là. Parce que quand il y a des enfants, attention, il faut vraiment bien réfléchir. Une thérapie comportementale, ça comporte quand même des éléments délicats. Et ce n'est pas, à mon avis... Peut-être que je me trompe, mais ce n'est pas, à mon avis, aux enfants d'éduquer un chien. C'est aux adultes d'éduquer le chien. Donc là, heureusement, il n'y avait pas d'enfants. Mais il a fallu, déjà pour commencer, repositionner le chien dans une relation qui était claire et nette. C'est-à-dire que ce comportement de menace par rapport à la nourriture était en fait l'iceberg... le
oui,
sommet de l'iceberg.
Pointe, ouais, ouais.
C'est-à-dire que
ça
le chien
pas,
dormait hein. effectivement dans le lit des maîtres. Il avait un petit peu sa place.
Ouais.
Et puis, il décidait...
Il y a beaucoup de gens qui font coucher leur chien dans leur lit.
Oui.
Carrément,
oui.
Vous ne dites pas dans la chambre, hein, là, vous dites dans le lit.
Oui.
Ouais.
Il y en a beaucoup qui le font et il y en a beaucoup pour lesquels ça ne pose aucun problème.
Mmh.
Moi, je ne crie pas au scandale,
ouais.
Je ne fais pas de leçons aux gens. Chacun fait comme il veut. Il y a
ouais.
certains chiens avec lesquels il n'y aura aucun problème.
Ouais.
Il n'y aura jamais aucun problème. Donc, pourquoi leur interdire cela?
Mmh.
Et il y en a d'autres, il y a certains chiens, certains types de chiens,
ouais.
qui tout de suite vont se dire « Ok, j'ai droit à la place bien confortable du leader,
ouais.
je mange ». La meilleure nourriture,
ouais.
c'est moi qui décide des interactions sociales.
C'est moi le
donc,
manager,
et, voilà.
et je vais faire
voilà.
marcher tous ces gens-là à la baguette selon mes désirs.
Voilà. Et c'était effectivement
donc,
le cas de ce chien-là.
Alors, on peut dire, bon, vous n'êtes pas là, et vous ne le faites pas dans votre livre hein, pour donner des bons points ou des mauvais points, pour dire vous avez tort, vous avez raison. Mais là, l'erreur, entre guillemets, que cette famille a pu commettre, c'était ça, c'était de mélanger...
Eh bien, vous vous souvenez comment il s'appelle ce chien? Il s'appelle Pacha. Et
ouais.
il porte très bien son nom, parce qu'il était traité comme un pacha.
Ouais.
Donc il a
ouais.
fallu, en 3-4 phrases, il a fallu remettre Pacha à sa place,
mm-hmm.
c'est-à-dire que ce n'était plus lui qui avait priorité sur tout.
Ouais.
Quand, par exemple, quand madame était au téléphone ou quand elle regardait la télévision, ouais. il venait se mettre devant elle, il lui amenait la balle.
Ouais.
Si elle ne lui lançait pas la balle, il lui donnait des petits coups de patte sur le genou.
Ouais.
Et puis si elle ne répondait pas, il montait sur ses genoux.
Ouais.
Donc il donnait un ordre, il disait « occupe-toi de moi maintenant ». Et c'est ce qu'elle faisait.
Ouais.
Donc, à
donc,
chacune de ses demandes,
ouais.
voilà.
Ouais.
Donc, il s'est dit, bon, ok, je suis le roi puisqu'on répond à toutes mes demandes.
Ouais.
Donc, il a fallu travailler là-dessus. Il a fallu qu'elle apprenne à ne pas répondre systématiquement.
Donc, déjà, on peut revenir en arrière, donc.
Bien entendu.
Les situations ne sont pas figées.
Non, rien n'est jamais figé.
On peut encore faire quelque chose et changer les relations avec un chien qui a pris ces habitudes-là.
Oui, il y a quand même certaines situations qui sont insolubles, c'est vrai, mais la majorité, on peut intervenir.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre tout en ligne de compte. Mm-hmm. Quand il y a des enfants en bas âge, quand on est sur un individu qui est très réactif, qui a mordu plusieurs fois et gravement...
Ouais.
Alors là, vous savez, moi, je suis maman, donc je ne prends aucun risque.
Ouais,
s'il y a des jeunes enfants, vous m'auriez dit, demandé il y a 10 ans et je n'avais pas d'enfants, je n'aurais peut-être pas réagi de cette manière-là. Mais il y a des risques quand même que moi, je ne suis pas prête à prendre.
Mais alors là, donc il a fallu expliquer au chien, si j'ose dire, qu'il n'allait plus dormir dans le lit, ça commence par là
Oui, il a fallu effectivement donc lui apprendre que toutes ses demandes n'étaient pas récompensées, qu'il n'avait pas priorité dans tout, que ce soit le lieu de couchage, les placements dans le territoire, la nourriture.
Donc, tout a été changé alors.
Oui, mais petit à petit. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un maître du jour au lendemain de changer tout son quotidien. Donc on commence tout doucement et on voit comment le chien réagit. Mm-hmm. Et en fait, étonnamment, ce chien a réagi très vite, très bien. C'est-à-dire qu'il y a certains chiens qui résistent. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'homéostasie. Ils résistent au changement. Ils freinent des cas de fer.
Ouais.
Et lui, étonnamment, j'ai été très surprise parce que en l'espace de 3 semaines, le problème était réglé. Mm-hmm. Comme si, quelque part, il n'attendait que ça. Comme s'il attendait d'avoir un leader, quelqu'un qui le remplace.
Mm-hmm.
Et donc, effectivement, la situation s'est réglée très vite et ça a été une satisfaction immense. Et c'est pour ça que je relate l'histoire.
Ouais. Mais, cela dit, vous continuez à faire la différence entre leader, vous venez d'employer le mot, et dominateur.
Oui.
C'est-à-dire que vous dites, on a retenu de ce qu'on nous explique par rapport au chien, que si le chien arrive dans la famille, il faut qu'il y ait une hiérarchie, que le maître va être le dominant et que le chien va être le dominé, donc le soumis. Finalement.
Oui, c'est ce qu'on voudrait bien, nous, les humains, avec notre omnipotence.
Alors on peut être leader sans être dominateur.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. On peut se faire respecter sans forcément être un dictateur. Écoutez, nous les humains, que faisons-nous ? En France, est-ce que nous avons un dictateur ou est-ce que nous avons un républicain, un démocrate ? Est-ce que c'est le bâton ? Ou est-ce qu'on peut quand même discuter ?
Vous dites, on craint un dictateur, on respecte
un leader,
démocratique, on va dire.
Voilà.
Démocrate.
C'est-à-dire que c'est rassurant de pouvoir mettre des étiquettes et de dire, mon chien est un dominant ou mon chien est un dominé. Mais la réalité ne correspond pas à ça.
Mmh.
Ça dépend d'un contexte. Vous pouvez avoir 2 chiens qui s'entendent plus ou moins bien. L'un est dominant, l'autre est dominé. Et puis, vous en intégrez un 3e. Et alors là, tout est bouleversé. C'est-à-dire que tout est à relier au contexte.
Alors, on va se retrouver dans un petit instant, on va faire une pause. Laurence Bruder-Sergent, rappelez le téléphone à ceux qui nous écoutent, 01 42 32 15 15 pour le téléphone, europe1.fr pour les courriels. Dans un instant, on va parler du choix du chien, parce que c'est le message qu'il y a dans votre livre. Bien sûr que votre métier, c'est de résoudre des situations parfois qui paraissent impossibles, mais vous dites, finalement, la prévention, c'est quand même mieux, parce que si on met tout ça bien cadré dès le début, c'est-à-dire dès le choix du chiot jusqu'à son arrivée à la maison et ensuite le comportement, on essaie de comprendre comment on va pouvoir vivre ensemble, ça va beaucoup mieux. Alors on va parler de tout ça dans un instant, après cette pause.